Alors, on avait parlé de Paul, du fait qu'il était revenu assez rapidement à Jérusalem et qu'il était averti en cours de route qu'il allait souffrir et que des choses difficiles l'attendaient. Et donc ça, c'était le Seigneur qui lui montrait, il y a quelque chose qui t'attend, ça va être difficile. Et à côté, le Seigneur poussait des disciples, des prophètes à lui dire, eh ben, il faut pas que tu y ailles, parce qu'il y a quelque chose de difficile qui t'attend. Donc ça semblait contradictoire un petit peu, mais en fait, c'est simplement le Seigneur qui testait Paul, qui lui donnait quelque chose, qui lui disait, bah, ça, tu le sers, c'est ce que je te dis, et maintenant, fais-moi confiance. Et le Seigneur, en même temps, utilisait les autres personnes pour lui dire, alors, est-ce que tu y vas pas, tu feras mieux de pas y aller. Et il le testait comme ça. Et donc, ça parlait, pour moi, je l'avais vu un peu sous l'angle de regarder ce qui se passera plus tard. Et c'est vrai qu'on est toujours intéressé à savoir ce qui va se passer dans les jours qui viennent, les mois qui viennent, ou les années même. Et le Seigneur ne nous autorise pas à regarder ces choses-là. Il y a effectivement des personnes qui sont capables de voir dans le futur, à cause de démons, à cause du malin, mais le Seigneur ne nous le permet pas. Et quand Saül a été voir une voyante, parce qu'il avait peur d'aller à la guerre, la voyante lui a dit « Demain, tu seras mort ». Et en fait, c'est même Samuel qui a parlé à Saül, qui lui a dit « Demain, tu seras avec moi, dans la tombe ». Et Saül ayant péché, c'était définitif. Il ne pouvait pas faire autre chose. Et le lendemain, il a beau essayer de tricher, de faire autre chose, il est mort. Et ce qui est rassurant pour nous, c'est qu'on a un autre exemple qu'on avait vu, c'était Ézéchias, qui a été averti par le prophète Ésaïe. Et Ésaïe est venu le voir, lui a dit « Écoute, tu vas mourir, tes jours sont terminés ». Et Ésaïe s'est repenti, a prié le Seigneur, et quand Ésaïe avait même pas quitté le palais, je pense, et le Seigneur lui a dit « Va voir Ézéchias et dis-lui que je lui donne 15 ans de plus ». Et c'est rassurant pour nous de savoir que le futur, il n'est pas écrit d'avance. Si le Seigneur veut vous dire des choses, il vous le dira. S'il ne vous le dit pas, ne cherchez pas. Et de toute façon, ce n'est pas écrit. C'est le Seigneur lui-même qui avait dit à Ézéchias qu'il mourrait. Et pourtant, il lui a laissé une chance, il lui a rajouté lui-même 15 années de plus. Et c'est important pour nous de ne pas chercher. Le Seigneur nous le donne si on en a besoin. Et sinon, on ne cherche pas. Et on cherche juste sa face. Il n'y a rien d'écrit de définitif. Et si on se tourne vers le Seigneur, ça peut toujours changer. Le Seigneur est toujours bon pour changer ses plans et pour faire autre chose. D'ailleurs, je pense que dans un sens, il ne change pas ses plans. C'était dans son plan qu'on se tourne vers lui et qu'on continue sur une voie. Donc Paul est allé quand même à Jérusalem. De toute façon, il savait qu'il devait y aller. Et donc, il allait dans le temple pour accomplir des rites, pour essayer de faire plaisir un peu à ceux qui étaient juifs avant et qui pensaient qu'il fallait continuer d'observer la loi. Et il a été croisé dans le temple par des juifs et qui ont ameuté la foule plus ou moins et qui ont fait croire à la foule qu'il avait ramené des non-juifs dans le temple, ce qui était interdit. Et donc, finalement, les juifs ont soulevé toute la foule contre Paul et ont commencé à le maltraiter et voulaient simplement le liquider, finir avec lui. Et en fait, ça m'a fait penser simplement à un passage de l'Apocalypse où Dieu envoie deux témoins sur terre qui prophétisent, qui font des choses bonnes, qui parlent de Dieu. Et le diable, en fait, va les faire mourir tous les deux. Et on a l'impression, en lisant le passage, que c'est la même chose. Le diable, il soulève toute la foule, il soulève tous les hommes contre ceux qui servent Dieu pour les supprimer. Parce qu'il ne veut pas de gens qui servent Dieu. Et tout ce qui est pour Dieu est contre lui, de toute façon. Et donc, l'Apocalypse dit « La bête leur a fait la guerre et les a vaincus ». Parce que Dieu l'a permis. Il faut le retenir, ça. Si parfois on est vaincu, c'est parce que Dieu le permet et lui reste vainqueur. Et la défaite est peut-être provisoire, parce que dans ce cas-là, dans le cas de l'Apocalypse, ces deux témoins, ils ont été mis à mort, mais ils sont ressuscités après. La défaite n'était pas définitive. Et donc ça faisait juste penser à ça. Et je me dis, la conclusion dans les deux histoires, elle est la même, c'est que si on veut servir le Seigneur, on sera persécuté. Il n'y a pas de choix à faire, ça va être comme ça. Et c'est vrai que dans un sens, on discutait avec Alex, on se disait, ben, être un employé chrétien, c'est génial. Si on pouvait faire des entreprises que entre chrétiens, ce serait super, parce qu'un chrétien, il est modèle, il est honnête, il est fidèle, il bosse consciencieusement, c'est l'employé idéal, en fait. Et pourtant, les patrons ne veulent pas de chrétiens, parce qu'on va parler de Jésus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et le monde peut reconnaître nos qualités en tant que chrétien, dire... Lui, il y a quelque chose de bien, il fait des choses bien, À partir du moment où on annonce le salut, où on annonce aussi la condamnation de Dieu sur les pécheurs, le monde n'aime pas et ça lui va pas. Et il a beau reconnaître des qualités et des bonnes choses, il n'en veut pas parce qu'il ne veut pas de Jésus, tout simplement. Jésus, il était accepté tant qu'il faisait des miracles et des belles choses. Et quand il a dit aux pharisiens hypocrites, et quand il leur a dit exactement ce qui était dans leur cœur, alors ils se sont ligués contre lui et ils n'en voulaient plus. Et c'est le point important, il ne s'agit pas d'être des témoins juste en faisant des bonnes choses, en étant fidèles, en travaillant bien. On est des témoins en annonçant l'évangile et en disant comment on peut être sauvé, en disant que les gens sont pécheurs et sont perdus. Et tant qu'on fait tout le reste, ça va, le diable va accepter parce qu'on ne le dérange pas. À partir du moment où on annonce l'évangile, c'est là où ça ne va pas et c'est là où le diable nous attaque et défend son morceau à lui. Donc la foule s'est liguée contre Paul et a cherché à le tuer. Et ce qui est extrêmement encourageant dans ce passage-là, c'est que, alors on va peut-être y tourner, c'est dans Acte 21, mais vous le savez comme moi, c'est les Romains qui sont venus chercher Paul. Et ce qui est fort finalement dans ce passage-là, c'est que Dieu utilise les ennemis du peuple d'Israël, ceux qui étaient des païens, pour sauver Paul et pour le mettre à l'abri. C'est Acte 21, et au verset 37, au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, « M'est-il permis de dire quelque chose ?» Le tribun répondit, « Tu sais le grec, tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert 4000 brigands ?»« Je suis juif, reprit Paul, de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. » Donc le tribun lui permet, et Paul annonce encore une fois l'évangile finalement à tout le peuple qui est rassemblé devant. Et c'est là où le Seigneur, dès la naissance de Paul, il lui avait donné quelque chose d'extrêmement important pour ce moment-là, c'était qu'il était citoyen romain. Et il y a des choses qu'on a des fois dès la naissance. On peut se dire, ça me sert à quoi? Dans un sens, il annonçait l'évangile et il était romain. Et ça pouvait peut-être l'handicaper dans certains endroits. Peut-être qu'il ne s'est jamais posé la question et qu'il n'a jamais fait attention. Et des fois, le Seigneur nous donne des choses aussi, on n'y fait pas attention pendant des années. Et il y a un moment où le fait d'être citoyen romain, ça sert. Ça a servi Paul quand il était dans la prison, à Philippe. Et là, ça lui sert parce que ça lui évite de se faire maltraiter. Les Romains, ils étaient civilisés, c'est-à-dire que au lieu juste de frapper, ils frappaient d'abord et après on parlait. Ils étaient civilisés aussi parce que dans un sens, ceux qui étaient romains, on les frappait pas. On avait quand même un peu de pitié, de gentillesse envers les compatriotes. Par contre, les barbares, ça, ils étaient frappés, il n'y avait pas le choix, c'est tout. Et donc Paul, il a échappé belle finalement juste parce qu'il était romain, juste par sa naissance. Il a rien fait pour, il contrôlait rien du tout. Et nous, c'est un peu la même chose dans un sens. Si on échappe belle, si on échappe au jugement, c'est uniquement par notre naissance et à laquelle on contrôle rien du tout. Et il ne faut pas qu'on y aille nous-mêmes en disant « Ben moi je vais y aller, je suis Paul, il me connaît quand même, je commence à être connu dans la région et il ne peut pas me faire ça. » Ça aurait servi à rien. Ça se trouve, il aurait été battu encore plus. Par contre, il a simplement dit « Je suis né romain. » Et là, c'était fini. Et le tribun a même eu peur, on le voit quelques versets plus loin. Il dit « Oh là, j'ai failli faire battre quelqu'un qui était romain et j'ai commis une infraction à la loi. » Donc Paul, vous connaissez plus ou moins l'histoire quand même, donc je vais essayer d'accélérer un peu. Paul a été donc emmené par le tribun, il a essayé de savoir ce qui se passait, il n'a pas tout compris, et il s'est dit « je vais le mettre au Sanhédrin avec les gens religieux et on va essayer de savoir ce qui se passe ». Et Paul a mis le désordre dans le Sanhédrin aussi finalement, et le tribun a été obligé de le prendre du milieu des hommes pour éviter qu'il se fasse encore une fois martyriser. Et le tribun, sachant pas vraiment quoi faire de lui, a dit bon, ben, je vais l'envoyer à Césarée et puis le gouverneur il verra ce qu'il en fait. Et avant ça, il y a un petit épisode qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un complot contre la vie de Paul. Et quand il était, Paul est allé une première fois devant le Sanhédrin, et le tribun l'a repris. Et entre deux, il y a des juifs qui se sont dit bon, on va s'arranger, on va le faire revenir devant le Sanhédrin, et pendant qu'il est en route, on l'attaque et on se débarrasse de lui. Et donc on voit ça dans Acte 23, au verset 12. « Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40. Et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs, les anciens, auxquels ils dirent « Nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. » Et donc, au verset suivant, on voit que le fils de la sœur de Paul a eu connaissance du guet-apens, a été prévenir le tribun, et le tribun n'a pas envoyé Paul devant le Sanhédrin. Et la grosse question qui reste dans cette affaire, qu'est-ce qu'ils sont devenus ces 40 hommes? Logiquement, hein, ils ont juré, ils sont morts de faim, ils sont morts de soif. Forcément, non, ils ont dû laisser tomber quelque part, enfin, c'est... Forcément... Et ça veut dire qu'ils ont fait, quelque chose qui était... Ils n'ont pas réfléchi à ce qu'ils disaient. Ils étaient tellement en colère qu'ils ont... On ne mangera pas, on ne boira pas tant qu'on ne l'aura pas tué. Ouais, on ne les plaindra pas, c'est sûr. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a fait un vœu comme ça, qui était complètement idiot, qui a juré quelque chose et dans la Bible, dont on nous raconte l'histoire, et qui lui a été jusqu'au bout. Si vous connaissez. Un des juges. Qui s'appelle Jephté. Et Jephté, en fait, il a fait un vœu à l'Éternel. Il a dit, donc c'est dans Juges, je vais vous le lire. En fait, j'ai toujours tout ici. Hein, donc si vous suivez pas, je les ai les versets. Dans Juges, donc Jephté fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. Jephté marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite depuis Aroer jusqu'à Minit, espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Abel-Keramim. Les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephté retourna dans sa maison à Mitzpah, et voici, sa fille sortit au-devant de lui, avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant, il n'avait point de fils et point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. » Il l'a laissé encore un certain temps aller dans la montagne et en fait, il l'a pas fait tout de suite, mais il a tué sa fille parce qu'il avait promis à Dieu de le faire. C'est terrible cette histoire, non ? D'un juge, quelqu'un qui a servi l'Éternel et qui a eu une parole qui était complètement insensée dans un sens. Et c'est important pour nous en tant que chrétiens de savoir qu'est-ce qu'on fait de notre parole. Je me souviens de quand on était, je veux dire il y a déjà longtemps quand j'étais jeune, quand j'étais à l'école, au collège, et on entendait des enfants dire « sur la tête de ma mère je fais ça machin, sur la tête de ma mère ceci ». Et c'est terrible le jour où on devient chrétien qu'on entend ça, on se dit « mais qu'est-ce qu'ils disent ces enfants ? Qu'est-ce qu'ils disent ?» Et on peut les entendre dire « sur la tête de ma mère je fais ça ». Deux minutes après, sur la tête de ma mère, je fais la chose complètement différente. Et c'est terrible parce qu'ils savent pas ce qu'ils disent. Et le Seigneur, il veut pas qu'on fasse des vœux à la légère. Et on voit même dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui dit en Matthieu 5, « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. » Et il faut, pour qu'on puisse simplement dire oui ou non, avoir une déclaration simple, il faut que les gens ils aient confiance en nous. Si on est un peu tricheur, si on respecte pas toujours ce qu'on dit, alors on est obligé de dire « Ok, je te le promets, je le fais. » Mais si, quand on dit quelque chose, on le fait de manière systématique, alors il n'y a qu'à le dire aux gens, ils savent qu'on le fera. Et ça implique pas simplement de faire attention à ce qu'on dit, mais attention à tout ce qu'on fait, et que, comme Dieu finalement, tout ce qu'il dit, il le fait. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Et il faut que ça soit la même chose pour nous, qu'on fasse vraiment attention à tout ce qu'on dit, et qu'on observe, et que s'il y a des choses à pas dire, on les dit pas. S'il y a des choses à pas promettre parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir le tenir, alors on le promet pas. Dans Proverbe 20, verset 25, C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Et dans l'Ecclésiaste, « Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. » Alors pourquoi est-ce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit? Parce que Dieu n'aime pas les insensés. Ça au moins c'est clair. Pourquoi aussi? Parce que tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. On contrôle rien du tout. Et on peut pas dire je suis toujours par ceci ou par cela, parce que c'est pas nous qui décidons, c'est pas nous qui gérons ces choses-là. Et la grande question, c'est la question de fidélité. Si je dis quelque chose, je dois le faire parce que Dieu est fidèle, et donc je dois être fidèle, je dois être comme lui. Et ça, finalement, cette petite chose-là, ça implique tellement de choses dans nos vies de faire attention à ce qu'on dit. Et on en dit des choses. Donc si on revient à Paul, il a parlé au peuple, il a été devant le Sanhédrin, et quand le tribun a su qu'il y avait un guet-apens, il a dit, donc on est à acte 23, verset 23, et ensuite il appela deux des centeniers et dit, « Tenez prêt dès la troisième heure de la nuit, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Qu'il y ait aussi des montures pour Paul, afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. » Il dit tout ça de la part des Romains, les ennemis du peuple d'Israël, pour protéger Paul. Ça fait du monde quand même, et c'est agréable de savoir que le Seigneur, dans un sens, il peut se servir même de nos ennemis, même des gens qui, dans un sens, les autorités politiques de l'époque, et même ceux qui sont à notre tête, même simplement les hommes politiques de tout niveau, le Seigneur peut les utiliser pour nous protéger, pour nous faire du bien. Et il faut prier aussi pour ça, pour que ces hommes-là ils soient utilisés par Dieu, qu'ils le veuillent ou non. Donc Paul a été transféré à Césarée devant le gouverneur Félix. Et on va lire au chapitre acte 24, verset 1. « Cinq jours après, arriva le souverain sacrificateur Ananias, avec des anciens et un orateur nommé Tertulle. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Paul fut appelé, et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. « Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde, et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens, et qui a même tenté de profaner le temple, et nous l'avons arrêté. Nous avons voulu le juger selon notre loi, mais le tribun Lysias étant arrivé, l'a arraché de nos mains avec une grande violence, en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. » Et après, au verset 10, « Après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit, « Sachant que depuis plusieurs années tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. » Et donc, il continue et il explique ce qui s'est passé. Et ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est la différence de discours entre ces gens-là et Paul. Quand on regarde Tertulle, on a l'impression que l'orateur, là, il accuse Paul dès qu'il arrive. Paul arrive et puis, très excellent Félix, ceci, cela, et il attend pas qu'on lui demande, il attaque, parce que c'est pour ça qu'il est là. Paul, lui, il attend au verset 10, après que le gouverneur lui eut fait signe de parler. Il y a une différence déjà de comportement dans ça. Tertulle, il ment. Il mitonne complètement là. Quand il explique ça, quand il fait « Tu nous fais jouir d'une paix profonde, et puis cette nation a obtenu de salutaires réformes, nous le reconnaissons tous, et avec une entière gratitude, c'est du foutage quand même, faut pas exagérer. Les Juifs, à mon avis, tout ce qu'ils demandaient, c'était de plus voir les Romains et d'en être débarrassés. Qu'est-ce qu'ils attendaient de Jésus? C'est que c'était un roi qui les sauve des Romains et qui les fasse sortir d'Israël. Et quand Tertulle dit ces choses-là, c'est purement pour flatter le gouverneur, purement pour le mettre dans les bonnes conditions et puis expliquer ce qu'il veut après. Et Paul s'y prend pas de la même manière. Il dit, sachant que depuis plusieurs années tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il ment pas, il ne flatte pas, il dit simplement, tu es juge depuis plusieurs années, tu dois avoir l'expérience, donc je te fais confiance pour cette affaire. Et c'est quelque chose de beaucoup plus posé, beaucoup plus modéré, et puis quelque chose de vrai, simplement. Et ça montre la différence de façon de parler entre les deux. Tertulle traite Paul de peste, qui excite les divisions, qui est chef de la secte des Nazaréens, qui a tenté de profaner le temple, alors que Paul n'est pas le chef des chrétiens. Il excite pas des divisions parmi tous les juifs du monde, et il n'a pas profané le temple. Donc, il accuse, il a des propos qui sont quand même relativement violents, même si c'est écrit de manière correcte dans la Bible. Et Paul, lui, ne cherche même pas à se défendre dans un sens. Il dit la vérité, il dit ce qui s'est passé, et voilà. Il n'a pas besoin d'accuser, de traiter, en fait, de tous les noms d'oiseaux celui qui vient l'attaquer. Il donne juste sa version, la vérité, et c'est tout. Et c'est important pour nous aussi de réussir à nous contenir. Le malin, s'il ne se gênera pas, lui, pour utiliser des mensonges, pour utiliser tout ce qu'il peut avoir sous la main pour nous faire tomber et pour obtenir ce qu'il veut. Et nous, il faut qu'on reste dans la vérité, qu'on reste correct dans ce qu'on dit. Et ça, c'est pas évident parce que finalement, les normes changent. Il y a des choses, des fois, qui étaient des gros mots il y a pas mal d'années, puis maintenant, c'est passé dans le dictionnaire. Donc, c'est plus un gros mot vraiment, c'est... Ouais, bon, c'est pas poli, mais ça se dit pas, mais c'est pas vraiment un gros mot. Il y a des mots comme ça. Et les normes, elles changent. Peut-être que dans 10 ans, ou dans même moins que ça, il y a des choses qu'on dirait absolument pas maintenant et qui deviendront totalement correctes aux yeux de la société. Et notre norme à nous, elle doit pas changer. Ça doit rester ce qui est dans la parole, ce qui plaît à Dieu. Et j'ai été marqué à ce propos-là par... une fois, on était en train de s'occuper du jardin devant, quand il n'y avait pas encore de bâtiment, rien, quand j'étais jeune. Je recommence. Et en fait, j'ai eu un mot, je sais plus lequel en fait, hein, mais ça devait pas être très poli. Et Kiss à côté me dit, qu'est-ce que tu viens de dire là? Je regarde, j'ai dit ça. Je fais, mais tu te rends compte d'où ça vient ce mot-là? Regarde le mot. Puis je regarde le mot, puis j'ai dû devenir rouge comme tout. Je me dis, oh, oui quand même. Il me dit, regarde ce que tu dis et regarde d'où viennent les mots. Quelle est leur origine? Qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement? Et là, quand, ben voilà, j'étais muet, parce qu'il avait complètement raison. Et on a des choses juste parce qu'on est dans un milieu qui nous imprègne de plein de mots, on l'entend, et ça rentre dans nos esprits, et ça doit pas rentrer. Il faut à tout prix que ces choses-là, elles restent dehors, et qu'on garde un langage qui est pur et qui honore le Seigneur. Donc c'est juste des différences entre le langage du monde et puis le nôtre. La suite de cette histoire, on la verra une autre fois. En fait, Paul, il a été... Félix savait toujours pas quoi faire de lui, en fait. Il y a eu l'occasion avec le roi Agrippa, qui était de passage et qui connaissait bien les questions religieuses, d'examiner le cas de Paul. Et Paul a pu encore rendre témoignage devant le roi, devant tous ceux qui étaient là. Et il a rendu témoignage vraiment des nombreuses fois. Quand vous lisez les actes, on a l'impression que c'est très répétitif à la fin. Parce que Paul est devant les Juifs, il donne son témoignage. Il est devant le tribun, il donne son témoignage. Devant le gouverneur, il le redonne. Devant le roi Agrippa, il continue. C'est peut-être répétitif, mais il touche à chaque fois des personnes différentes. Et notre témoignage à nous, on doit pas hésiter à le donner, dire ce que le Seigneur a fait dans notre vie, et toucher un maximum de personnes, parce que c'est simplement le but. Paul, il était apôtre, il faisait des disciples, et on peut pas dire il fait des disciples, ça veut presque rien dire. Il amène des gens au Seigneur. C'était son unique but. Et ça doit être le nôtre aussi. Et que notre parole, que notre comportement, que notre façon aussi, le rapport entre nos paroles et notre comportement, la correspondance qui est entre les deux, que ça puisse servir l'unique but d'amener des gens au Seigneur. Et on ira à Rome la fois prochaine, voilà. Je vais prier si vous voulez bien. Seigneur, merci de ce que tu nous transformes et Seigneur, il y a bien des choses encore à faire et des fois on a des comportements, des choses qu'on a admis dans nos vies bien avant de te servir ou même en cours de route, Seigneur, et tu veux nous purifier pour nous rendre parfaits, Seigneur. Il n'y a pas un compromis à trouver entre nous et le monde, il y a quelque chose de radical en toi et Seigneur, on veut être des lumières et pour être des lumières, on veut faire attention à, à ce qu'on dit, Seigneur, à ce qu'on fait. Et on veut que tout puisse t'honorer. Tu nous demandes d'être fidèle comme toi tu es fidèle, d'être pur comme toi tu es pur. Seigneur, sans toi, nous sommes incapables de faire ces choses-là, nous sommes capables de rien. Et je te prie que pour chacun d'entre nous, on soit tellement différent, Seigneur, que le témoignage soit clair, soit évident. Et Seigneur, que les gens puissent poser des questions et qu'on puisse annoncer l'Évangile. Et Seigneur, amener des gens à toi par notre comportement, par notre parole, Seigneur. Amen.